Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors dans cette émission, pas de sujet tabou, toutes les questions de santé qui vous préoccupent ou juste qui vous intéressent sont abordées tous les jours. Et pour m'accompagner dans cette mission, il est bien sûr à mes côtés dans ce studio, le docteur Jimmy... Bon, j'arrivais même plus à dire votre nom, le docteur Jimmy Mohamed.
Oui, ça n'a pas changé malgré tout. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Très bien, allez, au menu aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la bonne santé de nos oreilles et bien sûr de notre audition. À partir de quel âge commence-t-on réellement à entendre moins bien? D'ailleurs, la perte d'audition est-elle systématique chez tout le monde en vieillissant? Nous parlerons également de ce qu'il faut faire pour en prendre soin de cette audition. Pour en parler dans le détail, nous recevrons le docteur Alain Corré, il est médecin ORL à la Fondation Rothschild à Paris. Ensuite, c'est vendredi et le vendredi, place à la beauté avec la chronique de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il a enquêté aujourd'hui surtout sur la cryolipolyse ou comment maigrir par le froid. Il nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de l'apparence physique quand une forte perte de poids n'améliore pas forcément la vie sexuelle.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première, c'est une question de Julie.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai remarqué que j'avais certains troubles digestifs, notamment quand je consommais certains aliments, des produits laitiers ou des certains légumes. Je m'interrogeais à savoir si j'avais pas le syndrome du côlon irritable. Je crois que vous en avez parlé dans votre émission et je voulais savoir quel examen il fallait faire. Je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir.
Merci Julie pour cette question. Effectivement, on a fait une émission, Jimmy, vous rappelez, sur le côlon irritable il y a quelques jours. Bah oui, c'était passionnant. Bien. Et justement, bah, du coup, pour vous répondre, Julie, on a rappelé ce spécialiste, c'était le professeur Jean-Marc Sabaté, gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny. On l'écoute.
C'est possiblement un syndrome de l'intestin irritable. Alors, ça dépend des troubles digestifs qu'elle a quand elle ingère ce type de produit. Donc, si elle a des douleurs et des troubles du transit, quel qu'il soit, diarrhée ou constipation ou une alternance des deux, et que c'est suffisamment ancien, c'est-à-dire si elle a ces problèmes-là depuis plus de 6 mois et de manière assez fréquente, on va dire environ plus d'une fois par semaine, à ce moment-là, c'est possiblement un syndrome de l'intestin irritable. Pour la question par rapport aux examens à faire, je pense qu'il faut d'abord en parler à son médecin traitant qui fera, s'il l'a jamais fait, un petit bilan biologique. Il peut aussi démarrer et lui proposer un traitement avec des conseils hygiéno-diététiques et peut-être ce fameux régime pauvre en FODMAP, c'est-à-dire en diminuant les aliments qui favorisent les fermentations et qui provoquent des symptômes digestifs.
Voilà, c'était le professeur Sabaté au micro de Benjamin Lévesque. À présent, nous allons passer à une question pour vous, Jimmy. Cette fois, c'est celle d'Amandine. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Donc j'ai une petite question. Donc je prends des anti-inflammatoires tous les jours pour une maladie chronique. Au début du Covid, on nous a dit que c'était dangereux si on l'attrapait. Puis j'ai lu finalement non. Alors qu'est-ce que je dois faire au final si je tombe malade? Voilà, passez une bonne après-midi, merci beaucoup.
Bon Jimmy, alors sur les anti-inflammatoires, comme sur beaucoup d'autres choses, on a dit des trucs et puis on est revenu en arrière. On avait dit effectivement, il y avait même eu, je me rappelle, un tweet, je crois, du ministre de la Santé, d'Olivier Véran, sur cette info, sur les anti-inflammatoires qui pourraient peut-être, quand on les prend au long cours, aggraver une infection par le Covid si on l'attrape, évidemment. Finalement, c'est pas si sûr. Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On en retient quoi de tout ça?
On peut en vouloir au ministre de la Santé d'avoir fait un peu de pédagogie, puisque à ce moment-là, les messages des réanimateurs, c'était qu'ils avaient des personnes plutôt jeunes qui faisaient des formes graves et que dans l'histoire récente, on avait l'impression qu'ils prenaient des anti-inflammatoires. Et donc, on s'est dit qu'étant donné que les anti-inflammatoires plus une infection, ça ne fait pas bon ménage, il serait bon de les éviter. Donc, ce n'était pas du tout choquant. Maintenant, il y a une grosse étude qui est sortie, 9000 patients qui ont eu un diagnostic positif de PCR avec le Covid. Et on s'est rendu compte que 250 étaient mis sous anti-inflammatoires, soit faiblement anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou de plus gros anti-inflammatoires qu'on peut donner dans des maladies rhumatismales. Eh bien, on s'est rendu compte que les patients qui prennent ces traitements ne meurent pas plus que les autres, ne sont pas plus admis à l'hôpital ni même en réanimation et ne font pas du tout de forme plus grave. Et
donc, quand ils attrapent le Covid, c'est pas plus grave.
C'est pas plus sévère, même si d'une façon générale, on ne vous dira jamais de prendre des anti-inflammatoires lorsque vous avez n'importe quelle infection virale, mais ces données sont plutôt rassurantes.
Donc aujourd'hui, pour Amandine qui nous a posé cette question, elle prend des anti-inflammatoires au long cours pour une maladie chronique. Il n'y a rien de particulier à faire. Elle ne les arrête pas parce qu'on a une épidémie de nouveau qui évolue dans le mauvais sens, peut-être.
Ça, en revanche, ça m'était dit aussi, si jamais vous avez des traitements au long cours anti-inflammatoires, il ne faut surtout pas les arrêter, en particulier les corticoïdes. Si brutalement vous arrêtez vos corticoïdes, vous allez faire une poussée de la maladie. Et puis surtout, lorsque vous prenez la cortisone au long cours, votre surrénale est un peu endormie. Et donc, le fait de l'arrêter brutalement va faire que vous êtes en manque de cortisol et faire une réaction encore plus grave. Donc, n'arrêtez jamais vos traitements. Et si jamais vous avez des symptômes qui ressemblent au Covid, eh bien, allez voir votre médecin. Vous aurez une prescription médicale qui vous permet normalement d'être prioritaire lors des laboratoires. Et à ce moment-là, il vous donnera la marche à suivre pour adapter ou pas vos traitements.
D'ailleurs, là, on parle des anti-inflammatoires, donc de la cortisone, vous avez parlé également. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments, même que ceux-là, qui auraient prouvé que ça aggraverait éventuellement le coronavirus?
Non, pour l'instant, on n'a pas de données, ni dans une protection, ni dans une aggravation. L'hydroxychloroquine ne protège pas d'une forme grave de Covid. La seule chose qui pourrait vous protéger, c'est de porter un masque. En attendant d'avoir un vaccin, lorsque vous portez un masque, vous vous protégez, mais vous protégez aussi les autres. Donc soyez vigilants et portez-les. Alors, c'est vrai que c'est obligatoire dans les milieux extérieurs, quand vous allez chercher votre baguette. Pas sûr que vous allez attraper le Covid, mais en particulier dans les lieux clos, plus une pièce est petite, moins aérée et plus il y a du monde, et plus vous risquez d'attraper le Covid. Et ce sera d'autant plus vrai que l'épidémie progressera. Donc soyez vigilants, et même si vous faites des réunions entre familles, pas plus de 5-6, et surtout mettez un masque, vous verrez, ça passe très bien et on s'entend très bien avec un masque.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Amandine qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Alain Corré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin ORL à la Fondation Rothschild. Et avec vous aujourd'hui, donc on l'a dit, on va prendre soin de nos oreilles, de notre audition. D'abord, est-ce qu'on a une idée un petit peu globale? On va dire combien il y a de déficients auditifs en France?
Alors, on estime qu'il y a environ, en population générale, un peu plus de 9% de malentendants, ce qui fait à peu près un peu plus de 6 millions de malentendants en France. Si on exclut maintenant la population pédiatrique et des jeunes de moins de 18 ans, on monte à plus de 11%, ce qui fait à peu près 7 millions de malentendants dans la population adulte.
Jimmy ?
Est-ce que nos oreilles sont si fragiles que ça ? Parce qu'intuitivement, on comprend que les yeux sont fragiles, mais on n'a pas l'impression que c'est un organe qui pose trop de problèmes ou qui peut vieillir.
Alors c'est un organe qui vieillit et c'est un organe fragile tout à fait, c'est un organe qui est fragile à beaucoup de choses qui peuvent l'agresser, l'âge bien sûr, mais le bruit fort, le bruit répété, les infections. Si, c'est un organe assez fragile.
Oui, parce qu'on a l'impression que l'œil il est dehors à l'air, alors que l'oreille elle est un peu cachée à l'intérieur. Enfin, tout ce qui sert en tout cas à entendre, c'est plutôt interne, quoi. Donc on se dit, bon, c'est un peu caché, c'est plus
coriace.
Oui,
mais en fait, tout ce qui cache l'oreille sert aussi à amplifier les sons. Donc en fait, c'est pas si caché que ça. En fait.
Vous avez dit tout à l'heure que l'un des premiers facteurs de risque, on va dire, de la baisse d'audition, de la perte d'audition, c'est l'âge. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est inéluctable, je veux dire, ou est-ce qu'il est possible, je sais pas, à 80 ans d'entendre très très bien?
Alors, c'est inéluctable de vieillir, mais effectivement, on peut très bien entendre à 80 ans. Alors, il y a des facteurs génétiques tout à fait probables, puisque vous avez des familles de gens qui, à 50, 55 ans, sont déjà appareillés en raison d'une presbyacousie, c'est-à-dire un vieillissement de l'oreille. Et vous avez des gens, effectivement, à 80 ans, qui ne sont toujours pas appareillés. Pas forcément parce qu'ils ne sont pas appareillés, parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce que, simplement, ils n'en ont pas besoin.
C'est dingue. Moi, je pensais que vraiment, on allait tous finir un peu dur de la feuille, mais ce n'est pas obligatoire, alors.
Alors, vous avez fait la comparaison avec l'œil. Justement, il y a une grosse différence, puisqu'effectivement, la presbytie touche totalité des gens. C'est-à-dire qu'après 51, 52 ans, à peu près tout le monde porte des lunettes pour voir de près, à part les myopes. Par contre, effectivement, il y a une grosse inégalité face à la presbyacousie, avec des gens qui vont entendre mal assez tôt et des gens qui vont entendre très bien tard.
Jimmy ?
Et justement, quand on commence à moins bien entendre, que l'oreille est moins performante, est-ce que ça touche les deux oreilles de la même façon ou est-ce qu'on peut avoir une oreille particulièrement atteinte ?
Alors, on dit toujours que normalement, quand on vieillit pareil des deux côtés.
On a des rides symétriques, pas toujours, remarquez.
Normalement, on vieillit symétriquement. Donc effectivement, quand on vieillit asymétriquement, il faut toujours se poser la question d'un autre diagnostic. C'est pour ça qu'effectivement, c'est important de voir un otorhino en consultation qui va faire un test d'audition. Et s'il y a une très forte asymétrie entre les deux oreilles.
C'est-à-dire une perte brutale d'audition d'un côté, c'est que ça cache quoi alors ?
Alors, une perte brute, normalement, le vieillissement de l'oreille, c'est une perte progressive. D'accord. Donc, une perte brutale, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça peut être, par exemple, une surdité brutale, une surdité brusque, qui est d'origine virale. Ça peut effectivement être une tumeur du nerf auditif qui s'appelle le neuronome de l'acoustique, qui est une tumeur bénigne, qui peut parfaitement se manifester par une perte brutale de l'audition.
Et alors cette déficience, cette presbyacousie due à l'âge, elle commence en moyenne à quel âge ?
45, 50, 55, dans ces eaux-là.
Ne regardez pas Jimmy, c'est pas mon âge, je suis pas touché encore.
Pas du tout, non, vous avez encore un ou deux ans devant vous.
Jimmy.
On va parler d'une expression que tout le monde connaît, mais apparemment qui est fausse, la masturbation rendrait sourd. Est-ce que c'est faux, non ?
Alors, il n'y a pas d'étude, donc je ne peux pas être certain de cette affirmation.
Ça ne sort peut-être pas de n'importe où, alors, finalement.
Mais effectivement, a priori, on peut penser que c'est une erreur.
D'accord. Bon, après cette question essentielle de Jimmy, on va revenir à la santé de nos oreilles. Qu'est-ce qui, en dehors du vieillissement, finalement, peut abîmer nos oreilles ? Vous l'avez déjà un petit peu dit, des virus, des bactéries, mais le bruit, c'est-à-dire des bruits très forts, quand même.
Alors, des bruits forts et des bruits répétés ou des bruits très forts. Alors,
des musiques, par exemple.
Oui, de la musique, les boîtes de nuit, des concerts.
Un marteau-piqueur quand on travaille dans le bâtiment, peut-être.
Ouais. En termes de pathologies liées au travail, oui, les marteaux-piqueurs, les gens qui travaillent effectivement dans le bâtiment, qui sont soumis à des bruits répétés. Normalement, la médecine du travail doit leur protéger les oreilles. Mm-hmm. Mais effectivement, le bruit répété altère l'audition, en particulier sur certaines fréquences, des fréquences plutôt aiguës. Et puis finalement, on peut altérer aussi la totalité du spectre auditif.
Les musiciens qui travaillent tout le temps avec de la musique, d'instruments et parfois dans des groupes, etc., ça peut être dangereux pour eux ?
Tout à fait, en fonction du type de musique qui est pratiquée. Mais effectivement, même dans des grands orchestres symphoniques, il y a beaucoup de musiciens maintenant qui se font faire des protections auditives spécifiques à leur instrument, chez des audioprothésistes, puisque ça existe.
Dernière petite question, Jimmy.
Ça veut dire que si jamais on est exposé à un bruit répété, soit dans son cadre privé ou professionnel, mieux vaut aller voir l'ORL même un peu plus tôt que dans la population générale pour vérifier que l'audition est en bonne santé, en bonne forme ?
Bien sûr, bien sûr.
Docteur Coré, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Bien sûr, vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, docteur Alain Coré. Vous êtes médecin ORL à la Fondation Rothschild à Paris. Et aujourd'hui avec vous, on parle de la santé de nos oreilles. Je crois que vous vouliez faire un point sur la physiologie de l'oreille. Je crois qu'il y a un muscle qui la protège. Expliquez-nous.
Alors on va essayer de faire simple. Effectivement, on a dans notre oreille, vous devez le savoir, on a trois petits osselets. Le marteau, l'enclume et l'étrier qui servent à transmettre les sons.
Ils ont vraiment cette forme-là pour leur avoir donné ce nom-là ? C'est une forme d'enclume, une forme d'étrier ? Je me suis toujours posé la question
alors,
en fait.
Très, très, très vaguement pour les deux premiers. L'enclume, si, et l'étrier, oui. Alors l'étrier, oui. Ça ressemble vraiment à un étrier de
d'accord.
Cheval. C'est exactement la même chose. Et sur cet étrier, donc, il y a un petit muscle, moins d'un millimètre, qui s'appelle le muscle de l'étrier. Ce muscle, il est fondamental puisque c'est effectivement ce muscle qui va protéger votre oreille interne des sons forts. Puisque ce muscle va se contracter, il y a un arc réflexe. On va essayer de faire simple. Quand un son assez fort parvient à notre oreille, mais il y a un réflexe qui va se mettre en marche et qui va faire se contracter ce petit muscle pour que la chaîne des osselets arrête d'amplifier le son et de le transmettre à l'oreille interne. Alors c'est assez extraordinaire, mais ça a un délai d'action qui est de 90 millisecondes, ça paraît extrêmement rapide. Mais ce n'est pas suffisant pour empêcher un traumatisme sonore aigu. Par exemple, si vous allez au concert des Rolling Stones et que vous êtes à côté de l'enceinte principale, vous avez des crêtes ascensionnelles qui sont extrêmement verticales et vous pouvez parfaitement détruire une oreille.
Tout faire péter.
Parce que les 90 millisecondes, le temps que ça se mette en place, effectivement, l'oreille interne va être abîmée.
Vous avez bien entendu, Jimmy ?
Comment ?
L'explication. Voilà. Ah,
excellent, on l'attendait.
On a fait des blagues et tout ça.
À une école du rire.
Allez-y, Jimmy.
Alors, je peux juste rajouter une chose, parce que ça, c'est vraiment très important. C'est que, comme vous l'avez compris, ce réflexe est médié par un petit muscle et comme... Tous les muscles, les muscles, quand ça travaille beaucoup, ça se fatigue. C'est comme les abdominaux que vous faites régulièrement.
Je ne
vous connais pas du tout, c'est vraiment
vous savez qu'au bout d'une cinquantaine, soixantaine, vous commencez à avoir un petit peu mal aux abdominaux.
Et c'est pareil
parfois,
dans l'oreille, alors.
Au bout d'une centaine, vous allez arrêter. Et en fait, c'est exactement pareil dans l'oreille. On a tous expérimenté le fait que quand vous êtes dans une atmosphère sonore assez importante, une boîte de nuit, au bout d'un moment, une heure et quart, vous avez une espèce d'inconfort au niveau de vos oreilles, vous avez mal aux oreilles.
Les abdominaux des oreilles font mal.
Et en fait, c'est souvent le muscle de l'étrier qui est tout le temps en train de se contracter et qui commence à plus en pouvoir. Et en fait, c'est un signal d'alerte, il faut vraiment le dire aux gens. Quand vous avez un inconfort auditif, quand vous avez mal aux oreilles dans le bruit fort, c'est le moment de sortir. Je ne vais pas dire de fumer une cigarette parce que
non,
c'est faux, surtout pas. Mais en tout cas, sortir pour aller discuter avec les gens à l'extérieur du milieu sonore.
Calme.
Un quart d'heure, 20 minutes, faire une pause pour recharger un peu les accus de ce petit muscle. C'est très important.
On est censé récupérer ensuite de cette fatigue ou au bout d'un moment on peut...
Oui, parce que c'est comme tout muscle, quand vous arrêtez de le stimuler, bah, il va reconstruire petit à petit ses stocks et vous allez pouvoir y retourner. Par contre, si vous continuez et vous persévérez,
le muscle va
s'arrêter, il ne va plus pouvoir se contracter. Et là, à ce moment-là, vous risquez le traumatisme sonore parce qu'il ne va plus empêcher la transmission de ses sons forts
c'est
à l'oreille interne.
L'hypoacousie, c'est ça ou c'est pas ça?
Alors l'hypoacousie, c'est le fait de ne pas bien entendre, en fait.
Tout simplement.
Mais
la presbyacousie...
C'est ce que vous appelez surdité, en fait.
Ah, oui,
mais
d'accord.
Nous, on ne dit pas surdité parce que surdité, ça, on a l'impression que surdité, c'est total. Donc ouais. On utilise peu le mot surdité.
Hypoacousie, on entend moins bien, quoi.
Baisse d'audition.
Ouais. Très bien. Jimmy.
Ça paraît tout bête, mais pourquoi est-ce qu'on a deux oreilles? On ne pourrait pas se contenter d'une seule? Est-ce que c'est juste une question d'audition ou est-ce qu'on peut s'aider d'une oreille pour une autre fonction?
C'est assez étonnant parce que quand vous avez, vous vous dites que vous avez deux oreilles, donc vous avez presque une oreille de rechange. C'est-à-dire que si vous avez une atteinte auditive sur une oreille, bah vous aurez toujours l'autre. Et en fait, quand vous avez une atteinte auditive, même légère, sur une seule oreille, vous allez tout de suite perdre deux choses très importantes. Premièrement, la localisation des sons, puisqu'effectivement, avoir deux oreilles, ça sert à localiser les sons. Et quelqu'un qui n'entend pas d'une oreille et très bien de l'autre, bah, s'il entend un coup de klaxon, il est incapable de savoir si c'est de la droite ou de la gauche. Il peut se faire renverser beaucoup plus facilement. Deuxième chose, c'est que vous allez perdre ce qu'on appelle l'intelligibilité dans le bruit, c'est-à-dire la compréhension des gens dans le bruit. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir un peu d'ambiance sonore, bah, quand vous discutez avec les gens, vous ne comprenez plus ce qu'ils disent.
C'est ça, je croyais que c'était la fatigue, mais peut-être que j'ai perdu d'une oreille.
Même
en fait,
une seule oreille suffit pour perdre ces choses-là. Donc ouais. Effectivement, le fait d'avoir deux oreilles sert à ces deux choses-là, localiser et comprendre les gens dans le bruit.
Et donc, quand on revient à la presbyacousie, vu que l'audition baisse avec l'âge et qu'on a un vieillissement de plus en plus important en France, on peut estimer qu'on aura de plus en plus de personnes malentendantes dans quelques années?
Tout à fait.
Bien et donc, sûr. Du coup, forcément, ça passera par plus de consultations URL et peut-être plus d'appareillage par la suite?
Oui, très probablement. Il faut savoir aussi que les traumatismes sonores répétés... vont également probablement être responsables d'atteintes auditives chez des gens peut-être un peu plus jeunes. Normalement, il y a des normes qui ont été établies, que ce soit en boîte de nuit, vous connaissez la règle des 105 décibels qui ont été ramenés à 102, c'est très précis, 102 décibels qui ne sont pas toujours respectés. Vous connaissez la règle ce qu'on appelait baladeurs, c'est un peu désuet maintenant, donc les smartphones en fait, ils sont normalement plafonnés à 100 dB. Et
pour
normalement,
protéger, ouais.
Il y a une loi qui dit qu'à partir de 85 décibels, vous devez avoir sur votre téléphone, vous ferez l'essai, vous verrez quand vous allez monter le son, normalement vous devez avoir une alerte à 85 décibels disant « attention, c'est fort
».
Le problème, c'est que les gens ne pensent que simplement il ne faut pas mettre trop fort, mais il y a également le problème de la durée d'écoute, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas aux gens d'écouter au casque leur téléphone, enfin leur smartphone. Mais il faut, ne pas dépasser la barre des 85 dB et surtout faire des pauses régulières.
Docteur Corrie, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Alain Corrie. Vous êtes médecin ORL à la Fondation Rothschild à Paris. Alors, docteur Corrie, les grains de beauté, on nous conseille de les faire surveiller une fois par an. La vue, on dit tous les 3 ans. Pour les oreilles, quand tout va bien, on va dire, vous conseillez de faire un petit bilan tous les combien et à partir de quel âge on va faire contrôler qu'il n'y a pas de baisse d'audition?
Alors là, en fait, il n'y a pas de règle. Hein. Ça dépend vraiment. Vous avez des familles de malentendants qui vont être testées régulièrement et assez précocement parce qu'il y a des syndromes avec des atteintes auditives.
Mais quand il n'y a pas ça?
Mais quand il n'y a pas ça, on a plutôt tendance à dire aux gens, quand ils se plaignent, en fait, quand ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose.
On ne dit pas à 50 ans, aller chez l'ORL, quoi.
Je ne pense pas que ça a un intérêt particulier parce que si la personne vient en n'étant pas gênée et que vous lui dépistez une minime atteinte auditive, ça va déboucher sur rien en fait.
Jimmy ?
Et du coup, comment ça se passe concrètement lorsqu'on est chez l'ORL? On passe un audiogramme, qu'est-ce que vous faites?
Alors un audiogramme, c'est un test subjectif en fait, qui demande la participation du patient. C'est pour ça que c'est réservé aux adultes. Et donc le test auditif, vous allez faire écouter des sons purs à des gens à différentes fréquences, à différentes intensités pour avoir la perte auditive en décibels. Et vous allez faire un deuxième examen qui est absolument fondamental, qui est une audiométrie vocale, c'est-à-dire vous allez faire écouter des mots à des gens, à des intensités sonores particulières, pour voir effectivement quel est le retentissement social de l'atteinte auditive. Alors, on a des listes qui ont été faites par un monsieur qui s'appelle Monsieur Fournier, qui sont des listes assez extraordinaires, ce sont des listes de mots qui sont interchangeables, vous pouvez faire 10 fois des listes différentes, vous trouverez toujours le même résultat. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'on va décider vraiment de l'appareillage.
Ça dure combien de temps pour avoir le diagnostic, ce test? Ça dure, on est enfermé dans une cabine, je crois.
Ça dure entre 10 minutes et un quart d'heure.
Une fois qu'il y a une, alors pas une surdité, vous dites une hypoacousie avérée, confirmée, avant de parler des prothèses auditives qu'on peut évidemment mettre en place, est-ce que ça n'existe pas des opérations chirurgicales chez quelqu'un, je ne sais pas, qui aurait 60 ans, qui perd un peu d'audition? On va vous opérer, on va vous réparer tout ça et vous entendez bien, non?
Alors la chirurgie de l'oreille, bien sûr, ça existe, mais la chirurgie de l'audition est réservée aux problèmes liés à de la mécanique, c'est-à-dire à des osselets qui ne fonctionnent pas bien.
Quand c'est le vieillissement
Le vieillissement, c'est une anomalie, c'est une maladie de l'oreille interne. Donc c'est une, par définition, c'est une pathologie qui ne s'opère pas. Alors que la pathologie de l'atteinte de la mobilité des osselets, soit de la destruction des osselets liée à des infections à répétition, ça effectivement, ça peut s'opérer. Mais c'est deux choses qui sont totalement différentes.
Jimmy ?
Et du coup, si on décide d'appareiller, est-ce que vous avez un seuil à partir duquel on doit forcément mettre une prothèse, ou vous vous basez sur la gêne du patient, tout en sachant que parfois, certains nient un peu leurs symptômes ou ne veulent pas dire qu'ils entendent moins bien? Est-ce que vous avez un critère en disant « non, mais là, chez vous, il faut absolument vous faire appareiller ».
Alors, il y a des critères, il y a aussi des critères qui ont été mis en place par le ministère, et en particulier des critères, alors c'est un peu compliqué, d'audiométrie vocale dans le bruit, qui sont assez difficiles à mettre en place et qui sont donc assez peu respectés parce que c'est très compliqué à faire. En fait, c'est souvent un contexte. Ça dépend de l'âge. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui a 50 ans, qui est en pleine activité professionnelle et qui commence à avoir une atteinte de 30-35 décibels, il va être extrêmement gêné en sa vie professionnelle. Et là, vous allez vraiment l'encourager. Si vous avez quelqu'un à 75 ans qui passe sa vie simplement à regarder la télévision, qui a peu de vie sociale et qui a une atteinte également de 30 décibels, mais qui va être demandeur de absolument de rien, il n'est pas certain qu'il faut le forcer à se faire appareiller.
Techniquement, elles font quoi ces prothèses auditives? Alors qu'ils sont d'ailleurs de plus en plus discrètes. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le gros appareil. Il y en a des plus discrètes, hein, je suis d'accord. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, si?
Ah si, si, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est,
ça fait quoi? Ça amplifie juste le son? Ça fait quoi techniquement?
La notion d'esthétique, elle est assez curieuse dans l'appareil auditif, puisque les gens acceptent assez facilement de mettre des lunettes, mais effectivement, très difficilement d'être un appareil auditif.
Oui, moi j'en ai vu des tout petits transparents qu'on voit presque pas.
Oui, ça se voit quand même beaucoup moins que des lunettes, mais c'est comme ça. Les gens, effectivement, il y a un problème, il y a un lien, voilà, il y a un lien très net entre l'appareillage auditif et la vieillesse. Alors, nous, ORL, on a évidemment une autre vision, parce qu'on voit des enfants appareillés, on voit des adultes jeunes appareillés, mais pour la majorité des gens, effectivement, l'appareillage, c'est d'être vieux, c'est dommage. Alors effectivement, ça a fait énormément de progrès. Une prothèse auditive, ça n'est plus un simple amplificateur, c'est aussi quelque chose qui traite le signal, qui essaye de filtrer les sons ambiants avec des micro-directionnels. C'est quelque chose qui vous permet d'entendre également mieux dans le bruit. Donc c'est un ordinateur.
Jimmy ?
Et une fois qu'on a appareillé, le bénéfice est immédiat ou il faut un temps d'adaptation avant d'entendre correctement, ou c'est comme des lunettes, on les met et puis tout va bien?
Alors vous avez un temps d'adaptation qui est totalement dépendant de l'âge du patient et de ses capacités. C'est sûr que si vous appareillez un enfant, les résultats vont être absolument extraordinaires très rapidement. Si vous appareillez quelqu'un de 95 ans, il va falloir avoir une période d'adaptation.
Petit mot de prévention, on va dire, pour terminer cette émission. Est-ce qu'il y a des moyens pour préserver nos oreilles, même à 30 ans, à 20 ans, à 15 ans, pour que cette presbyacousie, peut-être, elle arrive au moins le plus tard possible, notamment en ce qui concerne la musique, par exemple, qu'on écoute avec les baladeurs? Est-ce que casque, par exemple, casque ou oreiller, oreillette, je veux dire, c'est oreiller, moi je vais aller me coucher, ça y est. Est-ce que les oreillettes, c'est mieux que les casques ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une durée max?
C'est pas un problème réellement d'oreillette ou de casque. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un problème de niveau sonore et de temps d'exposition sonore. Je peux faire encore un dernier petit truc un peu technique parce que c'est vraiment important. Il y a un vrai problème qui est la musique compressée.
Alors,
moi, je suis très mélomane, donc c'est vrai que c'est pas uniquement un problème de maniaquerie. C'est que la musique compressée, en fait, le MP3, tout ce que nos jeunes écoutent dans leur smartphone, pose un réel problème, car sans vouloir être trop technique, le MP3, c'est de la compression dynamique. Compression dynamique, ça veut dire quoi? Si j'ai un petit peu de temps, il faut rappeler que nos compositeurs, tous les compositeurs, quand vous écoutez de la musique, vous vous rendez compte qu'il y a des moments forts et des moments faibles. Tous les compositeurs ont fait ça, comme s'ils avaient compris que physiologiquement, l'oreille ne pouvait pas
supporter que du fort.
Quand vous faites de la compression dynamique, ce qui est très fort, vous le diminuez, mais ce qui est très faible, vous le remontez. Et en fait, du coup, pour avoir la même sensation sonore, vous allez augmenter le niveau sonore sans vous en rendre compte.
Donc c'est presque
vous
du
allez
fort
écouter
tout le
plus
temps.
Fort. Ouais. Donc la musique compressée fait que vous écoutez plus fort. Donc là aussi, les jeunes, il faut essayer de leur conseiller de pas utiliser la musique, de pas écouter la musique compressée, mais c'est compliqué.
Ouais, très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Corée, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné donc tous vos bons conseils de mélomanes et d'ORL pour prendre soin de nos oreilles. Merci encore.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Cette semaine, vous allez nous faire mincir grâce au froid.
Panamalix ? Panamalix ? Qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est pas possible. Il fait au moins... Moins 8000.
Alors, je vous rassure, on n'ira pas jusqu'à moins 8000 degrés, mais on va utiliser une technique qui existe depuis une dizaine d'années, la cryolipolyse. Ça vient des États-Unis. Alors, si on découpe le mot cryo, le froid, lipo, la graisse, et lisse, eh bien lisser. On va donc utiliser le froid combiné à de la pression pour mincir. Alors, le principe, c'est donc de congeler les cellules graisseuses qui vont ensuite se laisser mourir, comme l'explique le docteur Laurence Netter, dermatologue esthétique à Paris.
Quand on diminue la température dans la graisse et qu'en même temps on la comprime, on induit dans l'adipocyte, qui est la cellule graisseuse, une cristallisation de la graisse, c'est-à-dire des anomalies. Ces anomalies vont entraîner ce qu'on appelle l'apoptose des cellules. L'apoptose, c'est un petit peu la mort prématurée de ces cellules. Voilà, ces cellules vont donc se détruire et être éliminées par les voies naturelles de l'organisme, c'est-à-dire les vaisseaux lymphatique.
Alors Benjamin, on peut utiliser cette technique sur tout le monde, pour les gens qui ont des petits bourrelets comme le docteur Jimmy Mohamed, donc en léger surpoids, ou carrément pour les personnes souffrant d'obésité?
Alors non, attention, ce n'est pas un amaigrissement. D'ailleurs, si vous avez un IMC trop élevé, eh bien vous ne pouvez pas y avoir recours. Ça ne fonctionne uniquement que sur des graisses molles. C'est vraiment pour les gens comme Jimmy, comme vous, les Mélanie, mais comme moi. C'est vraiment on mange équilibré.
Ça passe mieux, allez-y.
On mange équilibré. Certains font du sport plus que d'autres. Et vraiment, on n'arrive pas à perdre ce petit bourrelet. Et on va aussi pouvoir traiter bien le double menton, l'intérieur des bras, l'intérieur des cuisses ou encore le ventre. Et c'est ce qu'aimerait faire justement Hélène, qui a 50 ans.
C'est un petit complexe parce que je ne suis pas tellement en surpoids. Mais effectivement, j'ai un bourrelet que je n'arrive pas à faire partir malgré le sport, malgré l'hygiène de vie. Enfin, donc oui, ça me gêne un peu. Quand je suis en maillot de bain, ça fait un petit rebondi que je n'aime pas beaucoup.
Alors Hélène a déjà fait les poignées d'amour il y a quelques mois, mais elle trouvait qu'elle avait encore un petit peu de ventre. Et donc j'ai pu la suivre au cabinet du docteur Netter. La séance de cryolipolyse dure 35 minutes. En voici un résumé.
Bonjour Hélène, donc aujourd'hui je vous vois pour faire le ventre. On avait fait, rappelez-moi, les poignées d'amour, ça fait combien de temps?
Ça fait 4 mois.
D'accord. Je vous laisse vous déshabiller, vous vous allongez sur la table. Donc là, je vais mettre la machine en route. On va appliquer le gel qui protège la peau et on lance l'aspiration. Donc là, c'est le petit moment où vous sentez la grosse aspiration. Puis ensuite, on va lancer le froid. On y va.
Hélène, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Je vois le bourrelet qui est totalement coincé dans la machine.
Il est coincé, c'est exactement ça. Donc ça fait, ça aspire, ça tire, ça pince un petit peu, mais sans faire mal. C'est, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est le froid qui arrive. Ça fait des petites bulles aussi, c'est un peu rigolo.
Bon voilà, les 35 minutes se sont passées. On va libérer votre bourrelet. Et donc là, c'est les deux petites minutes où c'est un petit peu plus désagréable quand la chaleur revient. Et donc comme je vais en profiter pour masser un petit peu la zone, pour bien casser les lobules graisseux, c'est les deux minutes qui sont un petit peu désagréables. On commence, on y va. Bon, Hélène, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et vous me tenez au courant dans 2 mois.
À bientôt, docteur. Merci.
Voilà, Hélène va donc maintenant devoir attendre 2 mois pour observer le résultat final. Comme je vous l'ai expliqué, le temps de la destruction de ces cellules graisseuses. Et en moyenne, une séance permet de perdre 30% de volume de graisse.
Quand même.
C'est pas mal, 30% Mélanie.
Là, je vois les yeux qui brillent.
Vous avez l'air motivé, Mélanie.
Non,
moi, tout va bien. Mais est-ce qu'il y a des risques, Benjamin, avec cette technique?
Alors non, c'est tout à fait normal d'avoir quelques rougeurs après la séance. Ça peut durer quelques heures, mais aucun risque d'hématome. Alors bien sûr, cette technique est interdite aux femmes enceintes ou si vous avez aussi une grosse cicatrice sur la zone à traiter. Alors on entend aussi souvent des risques de brûlures qui seraient liés au froid. Alors le bon conseil que je peux vous donner, c'est de faire ça chez un professionnel de santé, un dermatologue ou médecin esthétique, qui va pouvoir bien calibrer la machine et éviter tout risque de brûlure.
Et Benjamin, c'est définitif le bourrelet? Est-ce qu'il ne va pas revenir par la suite?
Oui, alors à condition de ne pas refaire n'importe quoi. Ce n'est pas une raison, Jenny ou Mélanie, pour s'enfiler des burgers et des pizzas, puisque comme le dit le docteur Laurence Plumet, autrice du Monde merveilleux du gras, eh bien il faut une bonne hygiène de vie.
Quelqu'un qui a réussi à gagner quelques centimètres avec plusieurs séances de cryolipolyse n'est pas du tout à risque de ne pas voir réapparaître un nouveau bourrelet si par ailleurs il fait n'importe quoi, c'est-à-dire mal manger et être sédentaire. Donc, encore une fois, on ne s'attaque à son bourrelet que si par ailleurs on a bien maigri, qu'on est stable en poids et que ce bourrelet est là et qu'il n'arrive plus à partir, en sachant que ce bourrelet reviendra si la personne commence à de nouveau mal manger et si de nouveau elle tombe dans la sédentarité.
Et surtout que cet amincissement par le froid a un coût, il faut compter entre 400 et 600 euros la séance.
Merci beaucoup Benjamin Lévesque.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé et le bien-être et la sexo, bien évidemment, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors Catherine, aujourd'hui on va répondre à cette question de Diane. Je vous la lis, il y a un an, j'ai perdu 40 kilos grâce à une opération. Je pensais qu'avec mon nouveau corps, mon mari aurait eu plus de désir. Or, ça, rien n'a vraiment changé. J'ai parfois même l'impression que l'on fait moins l'amour qu'auparavant. Comment l'expliquer, Catherine ? De façon générale, une prise de poids ou une, en l'occurrence là, une forte perte de poids, ça peut avoir un impact sur la sexualité en général.
Ça a un impact sur la perception que deux personnes, que chaque personne a de l'autre.
Donc, pour elle, ça pas. On a l'impression que ça change pas forcément, mais c'est son mari, on dirait qu'il y a pas de. Pour ce nouveau corps qui est plus mince, pourtant.
C'est ça. Elle, ça a dû changer dans le regard qu'elle avait sur elle-même pour qu'elle ait subi une opération. C'est que elle vivait très douloureusement ses 40 kilos de trop, qu'aujourd'hui elle a 40 kilos de moins, qu'elle tend vers une idée d'elle-même qui puisse la mettre certainement en plus grand confort et en plus grande séduction. Et puis narcissiquement plus assurée, sauf que son mari ne le voit pas comme ça. Alors, ou parce que ses goûts ne sont pas nécessairement d'une femme plus mince.
Il la préfère avant, peut-être.
Ou à défaut de la préférer physiquement, il avait peut-être besoin aussi de ce que ses 40 kilos de plus faisaient d'insécurité et qui faisait qu'elle était peut-être plus à lui, alors que maintenant qu'elle est belle, elle pourrait être plus séduisante de l'extérieur, par exemple. Donc ça change du tout au tout. Quand l'autre n'a pas les mêmes repères corporels, elle peut paraître aussi plus forte, plus attractive et plus en désir, et donc plus angoissante pour lui s'il était déjà en difficulté.
Jimmy ?
Ou alors il a peut-être une maîtresse, tout simplement. Non, ça peut être rien à voir. On se focalise sur le poids, mais c'est peut-être pas le. Ou alors peut-être qu'il a des problèmes au travail, il est peut-être fatigué, il y a peut-être chose que le poids.
Mais vous avez raison. Elle l'identifie comme ça parce qu'elle, elle observe que malgré le fait qu'elle est maigrie, elle n'arrive pas à le séduire.
Oui, parce que la perte de poids, c'est dans sa vie à elle, mais lui, c'est peut-être passé quelque chose dans sa vie à lui.
C'est ça. C'est-à-dire peut-être lui, il est parti de longue date et qu'elle a voulu le reséduire en prenant du poids et qu'il est déjà de longue date la tête ailleurs et le corps ailleurs. Donc de fait, elle pourra faire la danse du ventre, ça ne changera pas grand chose. Et puis arrêtons de penser que ce qui fait qu'un homme désire, c'est d'être un canon de beauté. Un homme est désirant d'une personne avec un physique qui est ce qui lui plaît à lui, et donc ce n'est pas parce qu'elle va mettre elle va avoir un nouveau poids ou une nouvelle tenue ou qu'elle va se mettre des dessous ou faire une danse du ventre que tout d'un coup elle est irrésistible automatiquement. Chacun a un émotionnel qui lui est propre, et heureusement les hommes n'obéissent pas au doigt et à l'œil dès lors qu'une femme se met en situation de séduction pour bander et la désirer.
Jimmy ?
Peut-être pour repartir à la conquête, non pas du sexe de son mari, mais peut-être à la conquête du couple, eh bien, il faut justement repartir sur de bonnes bases et peut-être essayer de retrouver de la complicité, peut-être créer de l'envie. C'est peut-être plus ça qu'une histoire purement physique.
Oui, je crois que déjà, il faut pouvoir échanger. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se désire pas, qu'on ne se désire plus ? Parce qu'elle peut être, par exemple, très belle aujourd'hui, alors qu'elle était moins belle. Et encore, je ne dis pas qu'on est plus belle ou moins belle selon Gros-Grosse.
Elle était sûrement très belle avant
aussi,
bien sûr.
Voilà, mais de son point de vue à elle, puisqu'elle a cherché cela, mais peut-être qu'elle est chiante dans sa relation. Non, mais osons les choses. C'est-à-dire que le sujet n'est pas un sujet. Elle peut être en difficulté avec elle-même. Et être en difficulté avec elle-même, quand je dis chiante, ce n'est pas dans l'absolu, c'est dans sa perception à lui. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'une relation, ce n'est pas parce qu'on est beau ou pas beau, la plus belle personne du monde, si elle n'est relationnellement pas en adéquation avec soi, s'il n'y a pas de communication, si l'autre est capricieux, etc., elle peut être magnifique, on ne la désire pas.
Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Diane d'aller le voir, son mari, et de lui poser la question ? Qu'est-ce qui se passe depuis que j'ai maigri ? Je trouve que tu as moins de désir pour moi. Il faut un peu plus de communication pour essayer de comprendre ce qui se passe, en tout cas.
Oui, alors surtout si elle identifie que c'est à partir du moment où elle a maigri, ou est-ce que c'était avant ? Parce que si c'était avant, c'est qu'elle était déjà en inquiétude. Au lieu de se parler, elle est allée faire ce qui était important pour elle, et tant mieux, à savoir maigrir, et déjà tant mieux pour sa santé, déjà. Et puis, finalement, elle attend quelque chose de l'autre, comme si moi j'ai fait un effort, tu devrais maintenant me désirer. Donc je pense que le mieux, c'est effectivement pouvoir échanger. Nous avons un problème, nous communiquons peu. Je n'ai pas le sentiment que tu viens vers moi. D'ailleurs, peut-être lui dira-t-il, mais tu ne viens pas non plus vers moi. Encore une fois, vous savez, c'est assez curieux. Les couples s'organisent de façon assez étrange, parce qu'on attend beaucoup de l'autre sans vouloir donner sa part de chemin, sans vouloir faire sa part de chemin en direction de l'autre. Donc peut-être qu'il faut commencer par en parler pour savoir le chemin qui est à faire.
Merci beaucoup Catherine. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Vous savez quelle est la principale caractéristique de Stéphane Bern ?
Non.
Il est immortel.
Non.
Ça fait très très longtemps qu'on le voit à la télévision. Moi je pense, je postule qu'il est immortel.
C'est le thème d'historiquement vôtre
oui,
aujourd'hui.
C'est vrai.
Ça tombe bien
ça
Mathieu,
tombe
c'est incroyable. Alors le comte de Saint-Germain, vous savez qu'il transformait le métal en or, qui prétendait être immortel. Eh bien, on va raconter son destin. Et puis, Marguerite Yourcenar, la dame en habit vert, immortelle.
Bien sûr.
Et une troisième immortelle plus contemporaine aussi, Stéphane.
Oui, qui, alors justement, parce que vous aimez bien ramener l'histoire aujourd'hui.
Elle s'est autoproclamée immortelle, et vous allez voir que les Américains la redécouvrent en ce moment, donc elle est vraiment immortelle, c'est Lara Fabian.
Oh. Immortelle, immortelle.
Et oui,
vous allez chanter dans l'émission.
Je ne chanterai pas dans l'émission. Vous pouvez rester sur Europe 1.
Puisque vous ne chanterez pas, je serai à l'écoute et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.